Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de l'anarchie. Ces messieurs n'arrêtent pas de discuter, ça fait 45 minutes qu'on aurait dû commencer. Aujourd'hui je serai accompagné d'ATH.
Salut à tous.
Et de Pixel.
Je ne roule pas en calèche.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera d'un Kickstarter, on enchaînera sur un jeu indépendant, nous évoquerons également un remake amateur, et enfin, pour terminer, on parlera de Mass Effect Andromeda, qui nous fait rire beaucoup en ce moment. Voilà. Sans oublier notre jeu du moment, et ça sera le sujet principal de cette émission. On l'attendait, n'est-ce pas? On l'a attendu très longtemps, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allez, c'est parti, et on commence donc, comme je le disais, avec un Kickstarter. Ce Kickstarter, c'est celui de Mages of Mystalia. Ah bah justement, on va parler de Zelda tout à l'heure. Il se trouve que Mages of Mystalia, c'est un Zelda-like, mais un Zelda-like ancienne formule, c'est-à-dire qu'il n'est pas open world, n'est-ce pas? Mais c'est un Zelda-like avec une originalité et pas des moindres. Si vous avez joué à Tyranny, n'est-ce pas? D'ailleurs, notre personnel, il faudra vraiment que j'en parle un jour de ce jeu. Vous savez que dans Tyranny, il y a un truc qui est super cool, c'est le système de magie. Parce que dans Tyranny, la magie, comment ça marche? Eh bien, tu peux te custom tes sorts. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas je prends cette rune de feu, je lui ajoute l'effet de zone qui va permettre de créer une boule de feu qui explose, et en plus, je lui rajoute plein d'effets à côté. Mage of Mystalia, c'est un peu pareil, sauf que tu transposes ça dans un Zelda-like. C'est-à-dire qu'en gros, dans Mage of Mystalia, tu vas jouer une gamine dans un univers super mimi, super joli, avec des énigmes à résoudre où tu vas pouvoir customiser tes sorts. T'as un espèce de plateau, en fait, où tu vas pouvoir poser tes runes, et par exemple, tu vas pouvoir dire, alors là, je pose ma rune de feu, tac, là, je pose l'effet, je tire en ligne droite, tac, et là, je pose l'effet, tire en diagonale. Et là, subtilité, attention, en fonction de où tu vas placer ta tuile sur le plateau, les effets que tu vas mettre vont avoir une influence différente. Par exemple, sur le sort que je viens de décrire, si tu poses la tuile tirée en diagonale directement à côté de la tuile boule de feu, quand tu vas tirer ta boule de feu, elle va directement partir en diagonale. Par contre, si tu poses ta tuile à côté de l'autre tuile qui permet de tirer tout droit, quand tu vas tirer ta boule de feu, elle va commencer à dévier comme ça en arc de cercle. À quoi ça sert ça? Bah tout simplement, ça sert à résoudre les énigmes que proposera le jeu de manière créative. Messieurs, je vous ai mis une vidéo du jeu, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je trouve ça super cool.
C'est un design assez simpliste quand même, ça n'empêche pas d'avoir son charme. Le système de magie, il a l'air intéressant. Après, j'ai peur à chaque fois quand on propose ce genre de système dans un jeu, c'est de pouvoir trouver la combinaison pétée dès le départ et que tu roules sur le jeu, quoi.
Ce que j'attends de voir, c'est les combats. J'espère qu'ils seront pas trop simplistes. Dans tous les cas, moi, je suis super enthousiaste. C'est un système que j'ai surkiffé dans Tyranny. Et le fait de pouvoir appliquer ça dans un jeu où, en plus, tu vas devoir résoudre des énigmes avec ça, où tu vas avoir en plus un moteur physique à côté. Franchement, moi, je suis très enthousiaste. En plus, j'adore la direction artistique du jeu. Et pour une fois, c'est pas du pixel art. Donc, je trouve ça très, très bien. Voilà. Alors, il demande 25 000 $ canadiens, ce qui est une somme dérisoire parce que ça va être 17 000 € et quelques. Par contre, je vous recommande pas du tout de financer le projet. Pourquoi? Parce que, déjà, il est financé. Mais en plus, je pense que c'est un de ces projets qui est très avancé et qui fait surtout ça pour faire une campagne marketing. Surtout qu'ils expliquent clairement dans la campagne que ils ont déjà trouvé des investisseurs et que en gros ils cherchent des gens pour avoir des retours. Sauf que si c'était vraiment ça, je veux dire, ils lanceraient un early access. Pour moi, très clairement, ça c'est un Kickstarter marketing pour se réunir une petite communauté autour du jeu. Alors je vous incite à suivre le jeu, mais par contre, surtout, n'allez pas le financer parce que ça ne sert strictement à rien. Voilà.
Et il y a un point que je voudrais souligner aussi, c'est que il y a un orchestre qui va faire la musique du jeu.
Ouais.
Et ça, moi, je trouve que c'est une autre sensation que des musiques enregistrées sur clavier électronique, quoi.
Ouais.
Pour moi, ça apporte un charme en plus dans un univers, surtout médiéval fantastique comme celui-ci, quoi.
Et puis aussi, ce que je voulais souligner, j'apprécie de voir des jeux qui ont l'air accessibles aux enfants. Je trouve que c'est assez rare ces derniers temps.
Bah, voilà, on a encore de voir avec la Switch qui va booster les ce marché-là pour les enfants, quoi. Je pense que Nintendo, c'est une valeur sûre, tu vois, pour les gamins.
Mm.
C'est vrai que pour les gens qui jouent sur PC ou bien console Microsoft et Sony, on n'a pas beaucoup de ce genre de jeu-là. C'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié Ratchet & Clank, parce que ça me faisait un peu revenir en enfance. C'était un peu ma Madeleine de Proust, quoi.
Bon, on va enchaîner, messieurs, sur un jeu indépendant qui, cette fois, ne demande de l'argent à personne. Et ce jeu, c'est Tales of Ronin. Alors, on va en parler rapidement parce que, fondamentalement, on n'a pas énormément d'informations sur le jeu en lui-même. Juste, alors, pour dire que Tales of Ronin, c'est quoi ? C'est un RPG en tour par tour simultané. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tour par tour simultané ? C'est-à-dire que, à chaque fois que vous allez faire une action dans un combat, l'adversaire va en faire une en même temps. C'est pas un jeu, si tu veux, où tu vas devoir réagir à chaque fois à ce qu'a fait la personne en face. C'est un jeu où tu vas devoir anticiper ce que la personne en face va faire. Et c'est un jeu, un RPG roguelite, où à chaque fois que vous allez mourir, bah, la mort sera définitive, et où vous jouerez avec un autre Ronin, tout simplement. Voilà. Alors moi, la question que je me pose, comment tu racontes une histoire avec un système comme ça, déjà ? Et surtout, comment se passe la progression, en fait ? Parce que si, du coup, à chaque fois que tu meurs, tu joues à nos personnages, il faut qu'il y ait une forme de progression dans le jeu, sinon ça devient très chiant. Au-delà de ça, pourquoi je voulais vous parler du jeu ? Je vous mettrai un lien vers la vidéo de présentation du jeu, vous allez comprendre tout de suite. Ce jeu est ultra stylé, quoi. Le style estampe japonaise, je surkiffe.
Je valide complètement le style crayonné comme ça, là. Sur encre noire, ça donne envie de voir le jeu tourner, quoi. Et c'est un type de jeu, tu vois, que, enfin, clairement, j'aimerais bien y jouer sur PS Vita, quoi. Ça, c'est le type de jeu parfait, je pense, pour cette console.
Ah, totalement.
Ou bien sur Switch, éventuellement, tu vois.
Voilà. Et... aussi.
Mais c'est vrai que, en tout cas, concernant ce que tu disais par rapport à l'histoire, je sais pas trop comment ils vont imbriquer un scénario là-dedans. Après, ils peuvent faire un truc, tu sais, genre une lignée de samouraïs qui se suit. Chacun reprend la quête où là où avait arrêté l'autre. En tout cas, ça a l'air pas mal du tout, quoi, parce que c'est pas un système en fait de JRPG classique qu'on a l'occasion de voir. J'ai l'impression que ça va être un peu le pierre papier ciseau, mais en direct.
Alors, par contre, tu vois, la question que je me pose, et ça, il faudra attendre qu'ils donnent des précisions sur le système pour avoir la réponse. Comment, en fait, ils vont faire en sorte que tu sois pas totalement dans le hasard quand tu vas combattre ton adversaire et que si tu meurs, bah, c'est juste parce que t'as pas eu un coup de bol, quoi.
Bah après ça, je pense que c'est le piège à éviter, surtout de pas faire que ça soit que du hasard. Ça serait bien que ça soit pas, voilà, un peu comme, tu sais, la bataille, tu tires une carte et au final, c'est celui qui a la plus forte qui gagne. T'as pas besoin de réfléchir, finalement. Moi, je préfère un jeu comme ça qui soit plus basé sur les échecs et les déplacements, l'anticipation de l'adversaire, plutôt que si t'as attaqué et lui, il a défendu, bah, c'est toi qui as gagné ou ce genre de choses-là, quoi.
Voilà. Donc, écoutez, c'est un jeu que je surveillerai parce que, enfin, ne serait-ce que la DA, déjà, moi, je suis amoureux. Hein. J'avais pas vu ça depuis Okami et je suis, ouf, sous le charme. Bon, on passe à la suite et on va maintenant parler d'un remake. Un remake de Tomb Raider 2 qui a été fait par un fan. Alors, pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que, ma foi, je suis impressionné par le travail qui a été fait. Je vous mettrai une vidéo du projet. J'espère juste que le gars va s'entourer d'une équipe, parce que sinon, très clairement, ça sortira jamais, parce que vu l'ampleur de la tâche qu'il y a à faire, et vu visiblement l'exigence que le gars a en termes de détails et tout, c'est pas possible de compléter ce projet tout seul. Donc j'espère que la publicité qui a été faite récemment autour du projet va lui permettre de recruter plus de gens et qu'ils avancent là-dessus, d'autant plus que le gars a réussi à avoir l'approbation de Crystal Dynamics, ce qui est suffisamment rare pour être noté, hein. On connaît certains éditeurs comme Nintendo, par exemple, qui, à la place, envoient des lettres de l'avocat directement aux fans, voilà. Écoutez, le projet, je le trouve super stylé. Techniquement, c'est nickel. En plus, les animations, elles sont impressionnantes. Franchement, chapeau bas.
Bah ouais, ça voit que le mec, il a bossé, quoi. Ça me donne même plus envie de jouer à celui-là qu'au nouveau Tomb Raider. Parce que c'est un... non, parce qu'en fait, dans celui-là, c'est les anciens Tomb Raider, c'était vraiment mis sous l'aspect exploration, alors que les nouveaux, c'est plus l'action. Et moi, j'aime bien vraiment l'aspect un peu Indiana Jones, où tu découvres des temples et tout ça. Après, c'est vrai que peut-être que Crystal Dynamics a donné son accord, mais la licence, elle appartient à Square Enix, et je pense pas que Square Enix, ils vont laisser passer ça, quoi. C'est l'éditeur, et...
Ouais, non, mais Crystal Dynamics, ils appartiennent à Square Enix, hein, donc j'imagine que s'ils ont donné leur accord, quand même, les gars, ils ont demandé leur avis aux gars d'en haut, tu vois.
Ah ouais, mais je te rappellerai une certaine histoire avec Konami, où Hideo Kojima, il a dit « Oui, oui, les gars, continue à développer
!» Ouais, non, mais c'est pas tout à fait la même chose. Kojima, c'est un seul mec qui se prend pour une star et qui fait ce qu'il veut, tu vois. Là, c'est quand même des employés qui ont dû consulter. Enfin, c'est pas tout à fait comparable.
Ouais, bah après, j'espère vraiment que Square Enix est dans la boucle et qu'ils ont accepté que, justement pour que ce remake de Tomb Raider 2 sorte, parce que ça donne vraiment envie. Enfin, tu vas mettre la vidéo, les gens, je pense qu'ils vont tous être d'accord. Il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus. Après, tu vois, si genre si les développeurs disent oui les gars, allez-y, faites le Tomb Raider 2, et après que Square Enix au bout de 3 ans de développement, ils disent bon, vous êtes bien gentils, mais en fait non. Là, ça me foutrait un peu les boules pour eux, quoi.
Surtout que là, il y a vraiment, le souci du détail. On dirait un projet double A, quoi, si tu veux. Alors, c'est pas comparable non plus aux Tomb Raider les plus récents, mais franchement, tu me dirais que c'est un studio qui a fait ça, je dirais ouais, c'est crédible, ouais. Alors que là, c'est un mec tout seul qui a fait ça, et là, tu dis ah oui, d'accord, ok. Respect.
En tout cas, moi, Tomb Raider 2, vu que j'ai jamais fait à l'époque sur la PlayStation, ça me donnera envie d'y jouer, quoi.
Et en plus, je pense que je ferais voir ça à mon père, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que mon papa est un grand fan de Tomb Raider, en tout cas des premiers, et ça, je pense que ça pourrait lui plaire.
Tu peux lui montrer la vidéo, tu lui dis, c'est un mec tout seul qui a fait ça, je pense qu'il te croira pas.
Ouais, je pense aussi. Même moi, j'ai du mal à y croire quand je vois ça. Alors, par contre, juste une news en vitesse. Alors, pour le coup, ça, c'est un truc qui a été fait par une équipe complète, hein, c'est Nier Automata. On va parler plus précisément de la version PC de Nier Automata. Pour le moment, messieurs et mesdames les joueurs, attendez. Visiblement, il y a des soucis de carte graphique, pixels, c'est ce que j'ai compris. Surtout chez ATI, apparemment. Mais ouais. Il y a des Nvidia aussi qui ont des problèmes.
Alors, j'ai lu les premiers retours des acheteurs sur la page Steam de Nier Automata. Alors, il y a un bug officiel qui a été reconnu par les développeurs. C'est un bug d'écran blanc ou d'écran noir. Ça dépend. Il peut arriver sous certaines conditions, mais qui arrive plus souvent si vous avez une carte graphique ATI. Voilà. Et donc le jeu est moins bien, tourne déjà moins bien de base avec une carte ATI. Et même si vous avez une carte Nvidia, ça dépend. C'est un peu la loterie. Parce que moi j'ai lu le message d'une personne. Bon après, alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Mais apparemment il était pas content parce que lui il avait une GTX 1070. Et il avait des chutes de framerate à 10 FPS. Donc, voilà, il y a des chutes de framerate, apparemment, ça dépend, on est sur PC, donc ça dépend de votre config, mais apparemment, ça...
Surtout que le problème avec ça, c'est que, en fait, là, c'est surtout sur le nombre qu'on se base pour vous faire cette news-là, parce que quand tu vois des mauvaises notes sur Steam, alors qu'en général, c'est l'école des fans, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, quoi. Alors après, est-ce que le gars qui a la 1070, est-ce que c'est parce que il a des drivers foireux, ou est-ce que c'est, il y a vraiment un problème, ça, on sait pas, quoi.
Ça, on sait pas. Mais il y a plein de problèmes. En ce moment, c'est la shitstorm sur la page Steam de Nier Automata. Alors que d'autres n'ont pas de problème. D'autres ont genre 1080p, 60 fps, sans aucun problème. C'est la loterie. C'est vraiment voilà. La loterie.
Donc la recommandation, moi, je pense, elle est simple. Attendez. Voilà. Je veux dire, des jeux qui sortent ce mois-ci, qui sont bien terminés, il y en a une chier. Personnellement ça m'arrange parce qu'en plus comme ça maintenant que j'ai fini Breath of the Wild, ça va me laisser le temps pour enchaîner sur Nioh tranquillou, voilà, que j'ai commencé d'ailleurs et qui est très très bien. Merci Platinum, écoutez, je savais pas comment j'allais faire pour m'en sortir pour jouer à tous les jeux auxquels je voulais jouer. Bah du coup ça me donne un prétexte pour ne pas acheter Nier Automata. Et d'ailleurs à propos de prétexte pour pas acheter des jeux, il y en a un autre qui donne des prétextes formidables, c'est Mass Effect. Mass Effect Andromeda qui nous fait beaucoup rire en ce moment. J'ai deux vidéos notamment que je vous mettrai en lien sur la description de l'émission. Qu'est-ce qu'on se marre dans Mass Effect, hein, je veux pas dire, mais entre les expressions faciales qui sont complètement foireuses, les PNJ qui pop dans de ses ou, les animations de marche qui sont absolument grand guignolesques. Alors certes, je me doute que c'est des séquences qui sont tirées de moments bien précis, mais si vous voulez, dans un jeu triple A qui sort au mois de mars, qui est un mois qui est ultra encombré, ça fait quand même un peu tâche, et a fortiori dans un jeu qui est autant basé sur les dialogues que ce Mass Effect.
Surtout, enfin, il y a aussi encore pas mal d'autres problèmes que t'as pas cités, comme la synchronisation labiale qui est affreuse, les personnages qui te regardent avec des yeux globuleux, ou bien qui ont des expressions de bonnet, t'as l'impression que le mec il a pas de cerveau, quoi.
Quand tu fais la comparaison avec The Witcher 3, c'est cruel.
Bah surtout que dans la vidéo qu'on a vue, il y a quelqu'un qui fait justement cette comparaison, qui montre bien Witcher 3 en 2015 et Mass Effect Andromeda 2017. Et c'est vrai que quand tu compares les deux, c'est le jour et la nuit. Après, Mass Effect, la trilogie originale, ça a pas été connu pour ses animations.
Je me rappelle de GIF de Mass Effect 3, notamment, où t'avais la tête de Shepard, on dirait un psychopathe. Enfin, il y a vraiment des trucs dans les précédents. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on a atteint des sommets dans celui-là, quoi.
Après, on a la vidéo sous les yeux et les moments ont été bien choisis. Mais si tout au long du jeu tu fais que rigoler, c'est sûr que ça va casser l'immersion déjà d'une.
Et... Alors après ça peut valoir le coup. Hein. Tu sais, je me disais en regardant ces trucs, un jeu nanar avec des expressions faciales totalement foireuses, ça pourrait le faire aussi. Hein. Parce que très honnêtement, blague à part, sur la partie sérieuse, on va dire, de ce Mass Effect 3, le jeu il m'attire pas du tout déjà à la base. Donc avoir un truc un peu brimbalant comme ça, ça pourrait me faire marrer, tu vois.
Ouais, mais du coup, un jeu nanar, tu l'achètes pas plein pot dès le départ, quoi. C'est un jeu que tu vas prendre.
Ah oui, ça c'est vrai.
Tu vois, je veux dire, c'est pas un jeu que tu vas attendre. Comme
on
ça.
Est bien d'accord que pour BioWare, c'est beaucoup plus emmerdant déjà. Hein.
Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, après, enfin, il y a pas mal de choses aussi qui ont été montrées dans la vidéo, par exemple. Les compagnons qui tiennent des armes pas accrochées au poignet, en fait, l'âme flotte devant lui.
Ou même qu'il la tient à l'envers. Parce oui. que, encore, tu vois, sur les expressions faciales, j'ai lu des tweets qui disaient BioWare, ils ont une équipe de motion capture qui est beaucoup moins importante que les autres studios, etc. Donc, il y a une justification peut-être technique. Mais là, il n'y a pas de justification. C'est juste que les mecs, c'est pas sérieux, quoi. Enfin, quand le perso tient son arme à l'envers, il y a un problème, quoi.
Ouais, mais après, tu vois, t'as l'impression de regarder l'émission Four Accords. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un jeu vidéo en fait.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
En termes de jeu vidéo, t'es pas censé avoir des faux raccords comme ça, tu vois. C'est il peut y avoir certains trucs qui se produisent dans un jeu. Oui, tous les jeux ne sont pas parfaits de bout en bout. Mais je veux dire que l'ennemi, enfin le personnage tient l'arme à l'envers. C'est complètement bizarre, quoi. Enfin, surtout pour un jeu AAA de cette qualité-là.
Et puis aussi, il y a des passages à un moment donné qui se veulent hyper sérieux. Et puis la manière dont les personnages prononcent les répliques. Mais ça tombe totalement à plat, quoi. T'as un espèce de malaise qui s'installe et t'as les mecs derrière qui sont vaches, tu sais, ils mettent des génériques de sitcom américaines, tu vois, pour sous de leur gueule. T'en peux plus, quoi. Enfin, moi, je vous recommande de voir les vidéos parce que t'es mort de rire, quoi. T'en peux plus.
Moi, je pense que ça serait bien de les mettre sous le podcast lors de la publication, histoire que les gens qui veulent se marrer rigolent un petit coup. Après, tu vois, Mass Effect Andromeda, le problème qui me pose, en fait, c'est que j'ai l'impression qui prennent un peu les travers de ce que j'aime pas dans les jeux un peu en open world et tout ça, c'est que il y a pas mal de loot et de choses qui n'étaient pas présentes dans la saga originale et que là ils ont décidé d'incorporer parce que il y a plein de jeux qui font comme ça et que le loot c'est super important, donc on a décidé d'en mettre dans ce Mass Effect là. J'ai vu pas mal de vidéos des gens qui ont pu jouer les 10 premières heures de jeu 10 jours à l'avance. Le système de combat, il a l'air péchu, il a l'air pas mal du tout, mais le fait que tu dois ramasser telle ou telle chose ou bien scanner un truc en haut d'une colline, pour moi, ça casse le rythme de l'action, quoi. Tu vois, dans les anciens Mass Effect, t'avais les phases en vaco, mais c'était des moments bien spécifiques. Alors que là, j'ai l'impression que c'est tout le temps, en fait. Et ça me fait un petit peu peur sur la qualité finale du jeu, quoi.
Ok, bon, Pixel, y a rien à ajouter ?
C'est très drôle. Et ça me donne pas envie de l'acheter tout de suite. Depuis quelques jours aussi, on a les premiers retours au niveau du scénario, et ça a pas l'air génial, et ça a l'air extrêmement cliché.
Bah, j'ai envie de dire, hein, c'était pas le cas de Mass Effect 3 déjà, hein. Ou même du 2 d'ailleurs. Enfin, le scénario de Mass Effect, pour moi, ça a toujours été plus ou moins Hollywood. Hein. Moi, Mass Effect, c'est surtout des personnages, en fait. Et ce qui m'attire pas dans ce nouveau Mass Effect, en fait, c'est justement le crew qu'il y a. On dirait des adolescents. Enfin, moi, je suis pas du tout attiré. Le hypomètre, il est à zéro.
Ça
là.
Fait un peu voilà. Teenage Movie, quoi. Space Opera, Teenage Movie, on va sauver la galaxie, on s'éclate et c'est marrant.
Bon, allez, on va terminer avec l'actualité cette semaine. Et ouais, on a fait 8. Incroyable. Actualité en moins d'une demi-heure, c'est parfait. On va maintenant passer au gros morceau de l'émission. Et ce gros morceau, ça fait un long moment qu'on l'attendait. C'est Zelda Breath of the Wild.
Thank you.
je vous le cache pas, il y a 36 milliards de trucs à aborder. Mais je voulais commencer par un avertissement. Ce Legend of Zelda, il a été acclamé, encensé même. Par contre, je ne suis pas convaincu que ce Legend of Zelda aille à tous les fans de la franchise. Pourquoi ? Parce que c'est un Zelda qui casse énormément de codes, au-delà de la tuning verte de Link, hein, ça s'en bat les couilles, je veux dire. non, c'est un Zelda qui bouleverse pas mal de codes de la série, à commencer par sa structure. Un Zelda, normalement, c'est quoi ? C'est un jeu où tu vas débloquer des clés, des pouvoirs, etc., qui vont, au fur et à mesure, te permettre d'avancer dans une structure bien précise et d'ouvrir de nouveaux pans du jeu. Zelda Breath of the Wild, c'est pas du tout ça. C'est un jeu où tu récupères d'office absolument tous les pouvoirs qui te permettront de compléter le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, t'as la zone du jeu de départ où tu vas choper les pouvoirs de base et ensuite, tu peux aller direct péter sa gueule à Ganon, il n'y a aucun souci. Bon, tu vas sûrement galérer un peu, ça je vous le cache pas, mais la structure du jeu est complètement bouleversée par rapport aux anciens Zelda, et ça, déjà, je suis pas sûr que ça aille à tous les fans de la franchise, et ce d'autant plus qu'il y a d'autres choses qui changent par rapport à la série, le fait qu'il y ait énormément de loot dans le jeu, le fait que, par exemple, il y ait plus de saut automatique, et que le saut, maintenant, ça se gère à la mano, tu vois, mais ce qui contribue, par ailleurs, à une immersion dans le jeu, on en reparlera tout à l'heure. Bref, c'est un Zelda qui est différent des autres, et qui n'est peut-être pas à mettre en toutes les mains. En tout cas, si vous n'êtes pas fan d'Open World, je pense pas que ça sera un Zelda fait pour vous, parce que c'est un Zelda qui s'inspire énormément de tout ce qui a été fait ces dernières années en Open World, et même s'il est réussi, fondamentalement, ça reste un Open World.
Ouais, mais après, c'est quoi qui est mieux ? C'est une licence qui reste toujours sur les mêmes bases depuis des lustres, ou bien une licence qui essaie de se renouveler et apporter quelque chose. Les derniers Zelda que j'ai fait, bah j'avais plus de surprise parce que genre j'arrive dans un donjon, ah bah je sais que dans ce donjon là je vais avoir l'arc parce qu'il y a un putain d'œil qui me regarde au milieu de la salle, tu vois. Du coup tu connaissais déjà les énigmes quasiment avant d'entrer dans le jeu, donc du coup t'avais plus ce plaisir de découverte que t'avais en faisant Ocarina of Time à l'époque, parce que c'était une révolution quand il est sorti. Ça a apporté des codes qui ont été depuis repris et jusqu'à être usés jusqu'à la moelle. Donc du coup moi je trouve ça vraiment cool que Nintendo a pris le risque de faire un Zelda différent.
Il était temps de toute façon que Zelda évolue. Alors bien sûr, Nintendo fait évoluer sa saga en copiant sur tous les autres jeux, mais ça on va en reparler après. Mais j'ai envie de dire, autant copier ce qui marche, et ils le copient bien, et ils l'intègrent bien à leur jeu. Mais ouais, c'est vrai, si vous aimez pas les mondes ouverts, un peu vides, c'est quand même un peu vide, hein.
Il y a un peu de remplissage, oui, on va dire.
Il y a un peu de remplissage, voilà. Ça va pas vous plaire. Mais ce Zelda-là m'a fait remonter mon estime envers la saga Zelda. C'est un point vraiment positif. Mais de toute façon, Nintendo pouvait pas faire autrement, il fallait faire évoluer le jeu, la saga.
D'ailleurs, tu as dit, c'est marrant parce que tu as dit Nintendo a copié ce qui marche, mais en même temps, combien de gens les ont copiés, tu vois. Depuis Delus, je pense que Nintendo, en termes de gameplay, c'est ceux qui se sont fait le plus payer dans l'histoire du jeu vidéo. En même temps, ils ont apporté tellement de choses que c'est normal. Ils sont tellement bons dans ce qu'ils font que voilà.
Ouais, non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que avec ce Zelda, ils rentrent dans un domaine dans lequel ils sont jamais allés en fait, si tu veux. Et donc du coup, ils ont vraiment pris ce qu'ils se faisaient avant et ils en ont fait quelque chose à eux. On va prendre un exemple, au hasard, comme ça.
Au hasard.
Ouais, voilà, vous connaissez la passion d'ATH pour les tours dans les jeux Ubisoft. Comment ça marche, une tour dans un jeu Ubisoft ? T'escalades une tour, généralement en mode automatique, hein, on est d'accord, ATH, voilà. Oui. On va dire qu'en termes de gameplay, c'est pas super palpitant.
Non, c'est chiant.
Et, et une fois arrivé au sommet, tu vas dévoiler un pan de la carte, et sur ce pan de la carte, t'as plein de loupiotes qui vont s'allumer, et qui vont te dire, voilà. Regarde mon parc d'attraction, tu peux aller faire plein de trucs. Dans Breath of the Wild, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, tu as des tours qui vont te dévoiler un pan de la carte. Mais, déjà, premier point. La grande majorité des tours dans ce jeu, tu n'y accèdes pas comme ça. Je prends un exemple au hasard, parce qu'il y en a plusieurs. Dans une tour, à un moment donné dans le jeu, tu te rends compte que il y a une espèce de corruption. Ganon, on va dire qu'il a corrompu les terres, tu vois. Et à certains endroits, bah, il reste des espèces de miasmes qu'il a laissés. On va dire qu'il a craché sur la tour. Et ces miasmes, faut vaut mieux pas les toucher parce qu'il y a des chances que tu crèves. Et du coup, il y a tout un puzzle qui se met en place, si tu veux, où il faut que tu trouves comment tu évites les chimiasmes et comment tu fais pour grimper à la tour. Et là, je peux te dire que ton cerveau, il mouline, en fait. Et c'est ça la différence majeure qu'il y a entre un jeu de Nintendo et la plupart des jeux en open world auxquels j'ai joué ces dernières années. Tu n'es absolument pas en mode pilote automatique et ton cerveau, il est là, il tourne, il cherche la solution, qu'elle soit créative ou non d'ailleurs, parce que c'est ça qui est cool aussi dans The Zelda, c'est que souvent, il y a plusieurs solutions à un problème grâce à la créativité que permet le jeu avec les pouvoirs, plus l'escalade, plus le fait que tu peux exploiter le relief, plus, enfin, vraiment, tu peux exploiter les mécaniques du jeu pour retourner les puzzles. Et là, dans un jeu Nintendo, ben les tours, justement, c'est pas un truc bête et méchant où t'arrives, tu grimpes, tu te fais chier et t'actives la map. Déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, second point, une fois que t'es arrivé au sommet de la tour, tu dévoiles la carte. Sauf que là, tu te rends compte d'un truc bizarre, c'est que je comprends pas, il y a pas de loupiote qui s'allume partout sur la carte. J'ai juste le relevé topographique du terrain, quand on va dire, je vois les lacs, les machins. À la limite, j'ai quelques noms qui s'affichent, tu vois. Mais à part ça, j'ai zéro info.
Et du coup, t'as pas l'impression que ça te fait une checklist, quoi, de... Alors là, il y a telle activité, voilà. Là, il y a ça.
Quelle est la différence majeure entre ce Zelda et la plupart des open world auxquels j'ai joué? C'est un open world où tu regardes le jeu et pas la mini-map.
Voilà.
Pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts, qui savent à quel point j'ai souvent crié mon amour de Morrowind et à quel point j'ai craché à la gueule d'Elder Scroll récent parce que je ne supporte plus ces jeux où tu as des putains de GPS de merde et où tu vois tout ce qui se passe. Là, c'est un jeu qui ne te prend pas pour un débile, en fait. C'est ça le truc. Il a été conçu de telle manière que dès que tu poses ton regard quelque part, tu te dis... Tiens, ça serait intéressant d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Et peut-être qu'il y aura quelque chose, peut-être pas. Mais en général, quand tu vois un endroit intéressant, il y a des choses. Alors pas forcément toujours des choses intéressantes, on y reviendra après. Mais le personnage principal, c'est la carte. C'est le paysage que tu as devant toi et où tu dis oh, « il faudrait que j'aille là-bas ». Et c'est en cela aussi qu'il porte extrêmement bien son nom, parce que c'est vraiment l'appel de la nature. Tu as envie d'aller voir, tu veux explorer, quoi. Cette tour, en plus, elle a une fonction de gameplay, c'est-à-dire que, en gros, c'est vraiment un point de vue idéal pour repérer les endroits qui sont intéressants et les marquer, en plus, sur ta minimap, parce que c'est ça qui est bien aussi. C'est que, une fois que t'es arrivé au sommet de la tour et tu dis, ah, ce truc là-bas, il a l'air bien. Tiens, je vais mettre ma carte et je vais mettre un point d'intérêt moi-même. Parce que je suis grand, tu vois. Et que si j'ai envie d'aller explorer là-bas et que je veux y aller plus tard, bah, je mettrai, tiens, ça serait bien d'aller regarder ce qu'il y a là-bas plus tard. Et ça, ça fait un bien fou à TH. Quand on est un gros frustré de la life comme moi depuis des années et qu'on n'en peut plus de ces open world de merde où on te prend pour un débile et on te dit il faut aller là, t'as une espèce de sentiment de libération, c'est extraordinaire.
Mais en fait, toi, voilà. T'as le même problème avec les cartes et les GPS que moi, j'ai un problème avec les tours dans les jeux vidéo, quoi.
C'est ça.
Mais après, ce que tu as dit, c'était intéressant parce que, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce Zelda, à t'écouter, ça donne vraiment la notion d'aventure, mais vraiment au sens large du terme. C'est-à-dire, c'est pas genre un jeu d'action-aventure parce qu'il y a des monstres et tu vas te balader et puis la carte, elle va te dire, va faire ce temple-là, puis après, va faire celui-là. Non, là, c'est vraiment aventure, c'est-à-dire, t'es lâché dans une zone sauvage. Puis tu te fais plaisir, c'est-à-dire si tu veux aller, enfin, ça, d'après ce que t'as dit, c'est que les paysages sont assez intelligemment faits de manière à ce que ça te donne envie d'aller voir telle chose par toi-même. Et du coup, en fait, le truc qui nous fait chier dans les jeux vidéo, c'est qu'on nous prenne pour un débile et qu'on nous prenne par la main. Et là, j'ai l'impression vraiment que ce jeu, il te dit, bah, après le tuto, on t'explique les bases du jeu. Après, tu fais le jeu à ta sauce. Mmh. Et enfin, moi, tu vois, ce Zelda, il me donne vachement envie parce que tous les retours que j'ai entendus, tout le monde est d'accord sur ce point-là, quoi. Tout le monde te dit, ouais, c'est un jeu où bah, tu peux t'y perdre, quoi.
J'ai envie de dire que c'est un open world qui réinvente pas l'open world. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il copie partout où il peut. Mais il copie bien. Il le met à sa sauce. Et au final, il le fait mieux que tout le monde.
Tu veux dire donc qu'il le fait mieux que Shadow of Mordor qui avait copié Assassin's Creed, quoi?
Voilà. Il copie tout le monde, mais il fait mieux que tout le monde. Et il fait sa bonne tambouille. Nintendo a bien copié. Quand on donne une mission, généralement, la personne va te dire « J'aimerais bien que tu ailles me récupérer un truc dans cette région. » Et il va te donner le nom de la région. Et le nom de la région, dans les commentaires, il va être en surbrillance. Il va changer de couleur pour bien te montrer que c'est un point important. Mais c'est à toi de le découvrir sur la carte. Et si tu l'as pas encore découvert, le nom, il n'est pas sur la carte. Parce que tu découvres, au fur et à mesure, quand tu te balades dans la Pampa, les noms des régions s'affichent sur ta carte progressivement.
Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que en général, on te montre la direction aussi. On te dit, ça se passe là-bas, et tu vois, t'as la caméra qui se tourne, qui t'affiche la direction générale.
Et à toi de te débrouiller.
Voilà.
Du coup, c'est-à-dire que le jeu peut t'envoyer dans une direction et du coup, tu pars sur totalement autre chose, quoi. Parce que en y allant, c'est-à-dire que tu vas avoir un point d'intérêt qui va t'attirer. Et du coup, tu vas t'écarter de plus en plus de ta route, tu vois. C'est un peu comme le conte là où les enfants se perdaient dans la forêt avec les bonbons là. Ça fait un peu ce genre de choses, quoi. Hansel et Gretel, c'est ça?
C'est ça.
Voilà.
Par contre, c'est un jeu qui est horrible pour les complétionnistes. Hein. Ça, je le dis tout de suite.
Ouais, c'est un jeu horrible pour moi.
Voilà. Pour toi comme pour moi, c'est un jeu horrible, mais c'est un jeu qui est terriblement prenant, en fait.
Après, s'il est horrible et il est bien, je redemande.
Voilà. Et aussi, c'est un jeu qui est extrêmement bien fini. Ça, c'est un point que je tenais à souligner. En quoi je trouve que ce jeu est extraordinaire, c'est que j'ai une centaine d'heures de jeu au compteur, à l'heure actuelle. Je l'ai terminé, hein. Encore heureux, vous me direz. Mais j'aurais pu y passer 100 heures de plus, hein, je pense. Mais j'avais fait le tour du jeu. Enfin, moi, j'estime avoir fait le tour de la question. Et en 100 heures de jeu, je n'ai pas rencontré un seul bug. Et quand je dis que je n'ai pas rencontré un seul bug, c'est pas juste des bugs de quête ou ce genre de choses. Non, non. C'est genre, je n'ai pas rencontré, par exemple, un seul bug d'animation. J'ai jamais vu ça dans aucun open world, même dans The Witcher 3, ça m'arrivait de tomber sur des bugs. Et je sais que The Witcher 3 a déjà un niveau de finition qui est quand même pas mal. Et là, moi, je suis épaté du niveau de finition du jeu. C'est-à-dire que t'as un Link dont les mouvements sont fluides, t'as des systèmes qui se répondent parfaitement, et tout ça tourne comme une horloge, et y a pas un seul problème. Bon, ok, un problème, c'est le framerate, qui est foireux. Au bout d'un moment, on s'y fait, et ça s'est amélioré depuis la sortie, mais des fois, c'est quand même un peu gênant. Mais en dehors de ça, vraiment, je suis épaté par le niveau de finition du jeu, quoi.
Ah, ça, c'est la qualité Nintendo, en général. Ils sortent pas des jeux ultra buggés. Enfin, après, tous les jeux sont buggés, quoi. Même, par exemple, tu vois, un jeu qui a l'air parfait, comme Mario 64, il est buggé de partout, t'as qu'à regarder juste les speedruns, ou bien même Ocarina of Time. Les jeux, si tu veux vraiment chercher la petite bête, tu vas la trouver. Et je suis sûr que pour Zelda, ça va être exactement pareil.
Oui, c'est sûr qu'il y en a, mais c'est pas des bugs qui te sautent à la gueule,
c'est ça,
tu vois.
C'est-à-dire que le jeu, si toi-même, tu vas pas te forcer à trouver ces genres de bugs et tout ça, ça va être très rare que tu vas te retrouver bloqué dans ce jeu-là, quoi. Et, après, enfin, tu vois, ça, si je veux dire, c'est ouf aujourd'hui qu'en 2017 quoi, il y a des jeux qui sortent finis. Normalement, ça devrait être la base, mais tu vois là, c'est genre on est choqué qu'un jeu sorte fini. Des fois, t'as des patchs de 9 gigas qui sortent pour corriger le jeu. Enfin, pourquoi ne pas avoir sorti le jeu plus tard? Bah non, parce qu'on voulait le vendre à cette date-là. Tant pis si le jeu est pas fini. Alors, au moins Nintendo, tu vois, ils sortent des jeux avec une qualité quasiment irréprochable à la Street Date quoi.
Tu sais, Zelda, c'est ce Breath of the Wild, c'est un jeu où tu peux escalader partout. C'est Spider-Link, hein. D'ailleurs, je dis tout de suite, le mec, il peut vraiment escalader partout, quoi. C'est un truc de malade. Et je m'attendais à voir des bugs d'animation par endroit, quand même. Mais zéro, quoi. Zéro. C'est vraiment, y a un niveau de finition que moi, chapeau bas.
Et justement, parce que, avant de finir sur la partie exploration, j'aimerais bien vous poser une question qui me dérange depuis les premières vidéos, en fait, que j'ai vues de ce Zelda. Parce qu'on parle beaucoup d'exploration, ouais, c'est génial de se perdre, d'aller découvrir telle chose au sommet d'une colline, etc. D'accord? Mais moi, les premières vidéos que j'ai vues, c'est un jeu qui me semble extrêmement vide, en fait. Des fois, on voit des animaux qui se baladent, même si je trouve que l'animation est plutôt sympa et tout, mais ça a l'air quand même voilà, d'être une plaine et il n'y a pas grand-chose à faire. Alors moi, je voudrais savoir votre avis, monsieur. Est-ce que vraiment, le jeu, ça sent qu'il est vide parce que c'est la Switch et la Wii U, on peut pas afficher tant de choses que ça, ou bien finalement, le jeu est pas si vide que ça, quoi. C'est juste que Nintendo nous a pas montré les bons extraits.
On va revenir sur le remplissage du jeu en termes purement gameplay, il y a des choses à redire, mais en termes de décorum, quoi, on va dire, je suis absolument pas d'accord que le jeu est vide. Pour moi, c'est même tout le contraire. C'est vrai qu'il y a des déserts, tout ça, mais je veux dire, quand t'arrives dans le désert et qu'au bout d'un moment donné, tu tombes sur cette statue géante perdue dans le désert, non, tu peux pas dire ce jeu est vide, c'est pas vrai. Et aussi, il y a une faune, il y a des animaux qui se baladent. Alors, c'est pas un jeu où tu vas avoir des bestioles immenses qui se baladent, c'est pas Chronicle X, c'est vrai. Mais il y a quand même une faune, il y a quand même un univers vivant, et surtout, enfin, moi, ce qui m'a bluffé, je sais pas pour Pixel, mais le moment où t'arrives, que tu vois les herbes qui bougent, les effets météorologiques, le souffle du vent, etc.
Le jeu te fait oublier que t'as des grandes plaines. La carte est tellement grande que tu développes forcément un sentiment de solitude. Parce que tu rencontres finalement assez peu de monde, à part dans les relais des chevaux et les 3-4 villes qu'il y a dans le jeu.
Il y en a plus que ça.
Bah, il y en a plus, il y en a quelques-unes de plus, mais bon, il y en a pas beaucoup.
Oui.
Il n'y a pas de grande ville à part le château d'Hyrule. Mais t'as un grand moment de solitude parce que la carte est vraiment immense. Et d'ailleurs, si je devrais bien reprocher un truc peut-être à la carte, c'est qu'elle est pour moi un poil trop grande. Ça fait un poil trop MMO. T'as vraiment des distances entre chaque village. C'est vraiment immense, immense, immense. Mais le jeu est fait de telle façon à ce que t'as toujours un truc à faire. C'est vrai que tu regardes de l'herbe qui bouge avec le vent, bah, tu peux donner un coup d'épée, puis dans l'herbe, l'herbe elle s'en va, elle est coupée, puis tu peux récupérer des insectes,
puis, tu peux récupérer des trucs. Tu peux te balader dans une tempête, et à un moment donné, t'as les éclairs qui commencent à tomber, et un éclair qui éclate un arbre en deux. Il se passe des trucs sur cette carte.
Voilà, quoi. Et l'arbre peut prendre feu, ou bien l'éclair il peut tomber sur toi, sur ta tête.
Voilà. Ouais, si t'as le malheur de porter des trucs en métal sur toi, oui.
Mais voilà. Après, moi, ma question n'était pas posée forcément dans le fait s'il y a beaucoup de PNJ qui se baladent dans le monde. La question, c'était vraiment, vu qu'on est dans des déserts, dans des plaines et tout ça, toi, vu qu'il y a joué 100 heures en plus de ça, c'est bien que tu vas pouvoir répondre, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, on se fait pas un petit peu chier parce que on aimerait bien que ça soit un peu plus vivant, ou bien si au contraire, il y a toujours quelque chose à faire et que...
J'y aurais pas joué 100 heures hein, si je m'y étais fait chier. Il y a des trucs qui me dérangent dans ce jeu, mais l'expérience est suffisamment fluide et suffisamment entraînante pour que pendant 100 heures, je m'y sois pas vraiment emmerdé, en fait. Et le moment où la lassitude commence à poindre, c'est le moment où tu te dis tout simplement, bah, ok, on s'arrête là, tu vois, on va péter la gueule à Ganon et fin, quoi. Et le jeu, il a l'air vite comme ça, mais en fait, c'est un jeu, si tu veux, qui est extrêmement épuisant. Pixel donnera son expérience, mais moi, en y jouant, mon cerveau, il mouline. Mais je te raconte pas, il mouline en permanence. Tu réfléchis tout le temps, en fait. Je vais donner un exemple tout con. On va parler un peu du scénar, tiens. Ah oui, d'ailleurs, au passage, le scénar, hein, en gros, vous êtes fait botter le cul il y a 100 ans, tu reviens, et tu vas devoir aller péter la gueule à Ganon. Enfin, voilà. Le scénar, bon, certes, c'est bien écrit, les doublages sont très bien foutus, c'est même une des meilleures VF que j'ai jamais entendues, je viens de le dire, c'est Ghibli-esque, voilà. Je suis sûr qu'il y a des acteurs là-dedans qui ont joué dans des films Ghibli, d'ailleurs. C'est vraiment très bien foutu, tout ça, mais c'est un scénar sympathique, et voilà, ça s'arrête là.
Après, je veux dire, la légende de Zelda... C'est toujours la lutte du bien contre le mal, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc totalement manichéen.
Oui, parce que je vois des gens le porter au nu, si tu veux. Alors, qu'à mon sens, dans la série, il y a quand même bien mieux, et notamment Majora's Mask. Voilà.
Ouais, mais après, est-ce que Nintendo refera un Majora's Mask? Je pense pas.
Par contre, il y a un truc que je trouve très bien dans ce Zelda, c'est les bouts de scénar que tu peux débloquer via la mémoire. Et c'est un bout de gameplay, justement, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et qui va illustrer ce que je veux dire quand je dis que mon cerveau, il mouline quand je joue à ce jeu. Il se trouve que Link est amnésique. Tu peux débloquer des mémoires que tu as d'il y a 100 ans en te rendant sur certains lieux, parce qu'il se trouve que Link, il a une super tablette qui prend des photos aussi. Et il se trouve que Zelda, il y a 100 ans, elle faisait des photos avec cette tablette. Et donc, elle a fait quelques photos de lieux apparemment marquants. Et en te rendant sur ces lieux, en fait, tu peux débloquer des bouts de mémoire ou de séquences émotions avec Zelda, tout ça. Bon, personnellement, je trouve que ces séquences, elles se répètent un peu, parce que c'est un peu Zelda qui se lamente tout le temps, voilà. Là où ça devient super intéressant, en fait, c'est que pour trouver ces lieux, bah, on te dit pas où c'est. T'as la photo, et on te dit, démerde-toi avec ça. Et là...
Ah, ça me rappelle un peu les dessins dans Red Dead aussi, pour trouver les trésors.
Ton cerveau, il commence à se mettre en marche. C'est-à-dire, par exemple, tu dis alors, ok, cette photo-là, c'est un désert, il y a un lac. Tiens, alors attends, je vais ouvrir ma carte. Alors, je sais que le désert, c'est à peu près là. Tu vas investiguer. Et c'est un jeu où, en permanence, ton cerveau, il mouline, il mouline, il mouline. Tu dis, alors, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là? Tu cherches, tu vois, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et c'est pas genre, tu cherches dans le vide, quoi. Tu réfléchis. Et c'est pareil dans l'exploration, en fait. C'est-à-dire que, quand tu explores, il y a deux trucs qui sont extraordinaires, c'est le parapente et l'escalade. C'est les deux excellentes idées du jeu, pour moi. Surtout l'escalade, qui pour le coup est vraiment une idée originale. En tout cas, j'ai pas connaissance de jeu open world qui utilisait cette idée-là. Il y a des moments, on va dire t'es au pied d'une chaîne de montagne, et tu vois un point, imaginons une tour par exemple. Tu dis, il faudrait que j'aille là-bas. Et du coup, tu prends tes jumelles, et tu commences à te faire un chemin. Tu dis, ok... Alors, avec mon endurance, je peux essayer de passer par là. Et pendant que tu grimpes, alors déjà, tu vas essayer d'exploiter les hauteurs, etc. pour avancer plus vite avec ton parapente. Premier point. Et second point, quand tu vas escalader, comme l'escalade dépend de ta jauge d'endurance, parce qu'il y a une jauge d'endurance dans ce jeu, et c'est d'ailleurs un des légers défauts quand t'es à pied, c'est-à-dire que le problème de la jauge d'endurance, c'est que autant elle est géniale quand tu fais de l'escalade, autant elle est super relou quand tu cours. Ça me casse les couilles de devoir gérer mon endurance quand je cours avec Mick. Voilà, ça c'est dit. Par contre, quand tu fais de l'escalade, c'est génial parce que du coup, tu réfléchis. Tu dis, ok, alors il faut que je repère cette corniche-là, que j'arrive jusque-là pour faire une pause, tu vois, pour recharger ma jauge d'endurance et recommencer mon ascension. Et ton cerveau, il est tout le temps là en ébullition, en train de se dire, ok, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. En plus, on te met des trucs à la con, genre il y a les kogurus qui sont les coqueries de Ocarina of Time, qui te donnent des mini-ennemis à la con qui sont planqués sur la carte, et puis là, tac, tu tombes sur un sanctuaire où tu dis, tiens, je vais aller faire des énigmes. Bref, le truc, c'est que tu vois pas le temps passer, quoi. À un bout d'un moment donné, tu lèves la tête et tu fais, ah merde, il est super tard, en fait, je serais mieux d'aller me coucher. Voilà.
Ouais, t'as toujours quelque chose à faire dans le jeu. C'est vrai que ton cerveau est en ébullition, c'est ce qui compense le fait d'avoir des échelles de distance énormissimes quand tu te déplaces d'un point à un autre. Alors, bien sûr, tu peux te déplacer à pied, mais heureusement, tu débloques des points de téléportation. Heureusement, parce que sinon, tu t'en sors plus. Ils se débloquent sur les...
sanctuaires.
Soit sur les tours, soit sur les donjons que tu débloques, en fait. Tu peux pas te téléporter directement dans un village ou dans un relais de cheval, ce qui est extrêmement bizarre de mon point de vue.
Oui, mais en général, t'as un sanctuaire qui est
ouais,
à côté.
Généralement, voilà, t'as toujours un sanctuaire.
Il y a toujours un sanctuaire à côté.
Voilà, il y a toujours un sanctuaire proche d'un village ou d'un relais.
Par contre, c'est vrai que tu dois te taper le donjon avant.
Voilà, tu dois te taper le donjon avant.
Et c'est vrai que là, par contre, alors j'ai rien contre les petites énigmes, mais le point que tu évoquais tout à l'heure pour moi, sur le fait que la carte est trop grande, je pense que ça se voit d'autant plus en fait quand t'as un peu de bouteille dans le jeu et que tu vas sur une énigme, que ce soit pour un koguru. Pour vous expliquer, les kogurus, c'est vraiment des énigmes à la con. Genre, tu vois, t'as deux statues avec une pomme sur une des statues, et en gros l'idée c'est que tu dois faire une offrande à l'autre statue pour que le koguru il apparaisse et qu'il donne une noix. Le truc c'est que cette énigme, on l'a fait à peu près, on a arrêté de compter. Et c'est là en fait que tu vois que le jeu est beaucoup trop grand pour ce qu'il a à offrir, c'est que des fois t'as vraiment une impression de déjà vu qu'en fait.
Ça du coup c'est un petit peu dommage.
Ouais, pour récupérer les petites bestioles qui se cachent dans le décor, c'est chiant en fait, c'est le truc le plus chiant que j'ai trouvé en fait dans le jeu.
C'est pas mon plus gros point d'art mais je comprends.
C'est l'activité en fait qui te fait réfléchir un petit peu quand même, mais pas trop en fait.
Ça fait remplissage quoi. Et le problème c'est que au bout d'un moment, t'as ce même sentiment avec le sanctuaire, quoi, si tu veux. C'est ça, le truc. Pour vous donner une idée à ceux qui ont fini le jeu, j'ai fait à peu près 90 sanctuaires. Voilà. Au bout d'un moment, t'as souvent des solutions qui viennent comme ça, où tu dis, ouais, ok, c'est ça qu'il faut faire. Et le problème, c'est que ces sanctuaires-là, c'est censé être, en dehors des gros temples, des trucs un peu plus consistants. Et même ceux-là, au bout d'un moment, t'as un air de déjà-vu par moment, quoi.
Alors, il y en a aucun qui se ressemble au niveau du level design. Mais les mécaniques reviennent tout le temps.
Genre les donjons basés sur l'électricité,
voilà.
Au bout d'un moment, tu sais comment ça fonctionne.
Ou sur les épreuves de force, ou sur le feu, voilà, ou sur l'eau, par exemple. T'as des mécaniques, mais au niveau du level design, ils sont tous différents. T'en as pas
oui,
deux
ça, on est d'accord.
Et justement, vu qu'on parle des donjons, là, parce que, enfin, Zelda, c'est quand même connu pour être une série où il y a un certain nombre de temples à effectuer, mais je parle vraiment des gros temples bien consistants et pas, parce que là, ce que vous dites, apparemment, avec les sanctuaires,
pour moi, c'est des trucs apéro, ça, tu vois, c'est, les kogurus, c'est le truc au passage qui te distrait deux secondes. Les temples, c'est le truc apéro, et le plat de résistance, voilà, c'est les quatre gros donjons du jeu. Je dis quatre, pour moi, le château d'Hyrule, c'est pas vraiment un donjon, en fait, qui sont, pour le coup, vraiment super bien foutus.
Et vraiment, différents les uns des autres. Les quatre,
déjà,
ils se ressemblent pas, quoi.
Déjà, c'est du pur Shadow of the Colossus dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est, je vous verrai quand je vous jouerai au jeu, mais, c'est des donjons qui se déplacent. On va dire ça comme ça. C'est des donjons qui sont parfaitement intégrés au décor. Enfin, à l'environnement, quoi, si tu veux. C'est des donjons qui, ont des super bonnes idées de gameplay, c'est-à-dire que en gros, à chaque donjon au début, quand tu vas arriver, tu vas récupérer la carte du donjon, et avec cette carte, en fait, tu vas pouvoir interagir avec la structure même du donjon, et en interagissant avec la structure même du donjon, tu vas devoir résoudre des énigmes. Franchement, moi je dis, chapeau bas, ils sont super bien foutus, y a rien à redire. Pour moi, il n'y a rien à acheter, c'est magique.
Du coup, c'est pas un petit peu dommage qu'il y a beaucoup de sanctuaires de remplissage? Ça aurait pas été mieux qu'ils diminuent un peu les sanctuaires de remplissage et qu'ils
fassent... Alors déjà, il faut voir qu'il y a plusieurs types de sanctuaires. Il y a certains sanctuaires, je vais donner un exemple comme ça, je vous dis pas où c'est. C'est un sanctuaire, t'arrives, on fout ton perso à poil, et on te dit, maintenant, démerde-toi. En gros, c'est, ouais, c'est un sanctuaire en mode survival où tu vas devoir trouver des clés, en fait, et ces clés vont te permettre de débloquer le vrai sanctuaire qui est planqué quelque part sur l'île et qui va te donner une récompense. Et ces sanctuaires-là, qui sont pas vraiment des donjons, mais qui sont, je trouve, au-dessus des sanctuaires classiques, il y en a très peu. Et j'aurais peut-être pas demandé plus de grands donjons, parce que je pense que c'est quand même énormément de taf. Mais par contre, j'aurais pas craché sur des sanctuaires qui soient moins nombreux et beaucoup mieux intégrés au décorum. Parce que là, je trouve qu'ils ont quand même un peu adopté la solution de facilité, Nintendo, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en gros, les sanctuaires, c'est un truc qui est super voyant au loin. Tu rentres dans le sanctuaire, t'as des assets qui sont réutilisés en permanence. Et du coup, il n'y a aucun taf à faire, si tu veux, en termes d'intégration du sanctuaire dans le décorum. Et moi, les sanctuaires que j'ai vraiment appréciés, c'est ceux, et il y en a quelques-uns dans le jeu, où tu arrives dans une zone et où, en fait, c'est la zone en elle-même qui est une énigme à résoudre, quoi, si tu veux. Et il y en a quelques-uns comme ça qui sont vraiment bien foutus, et sans aller au degré de complexité au-dessus, moi, j'aurais préféré qu'on ait moins de sanctuaires apéro et qu'on ait plus de sanctuaires qui soient intégrés au décorum en général, quoi.
C'est vrai, ce passage-là, je l'ai bien aimé. Il est arrivé assez tard dans ma partie, et c'était presque nostalgique, parce que ça m'a rappelé mes premières heures sur le plateau où j'étais à poil aussi. Mmh. J'ai trouvé ça très intéressant, mais il y en a très peu. Et ça nous permet aussi de parler du loot, en fait, du jeu. Parce qu'il y a plein de loot. Ouais. Mais tout le temps.
Ça, par contre, c'est le... Mis à part quelques exceptions, parce que c'est vrai qu'il y a des moments quand même où tu vas récupérer des super items et t'es content, notamment il y a des armures que tu peux récupérer qui vont ajouter des bonus, il y a certaines armures qui ont des pouvoirs super sympas, genre typiquement l'armure de Zora, pour moi elle est magique. Par contre, ce jeu, il a un gros problème pour moi, c'est que j'ai le sentiment, en fait, que Nintendo, tu vois, comme on disait tout à l'heure, ils ont pompé à droite et à gauche. Et comme la plupart des open world ont un système de combat pas très intéressant, du loot merdique et un système d'inventaire pas forcément génial, ben on s'est retrouvé avec un système de combat pas très intéressant, du loot merdique et un inventaire pas génial. Voilà. Franchement, pour moi, ça c'est le gros point noir du jeu et c'est le truc que je ne comprends pas. Pixel, lui, ce qu'il a gassé, c'est les kogoro. Moi, c'est vraiment ça qui m'a cassé les couilles. Pour moi, il y a une incohérence totale de game design à ce niveau-là. T'as des armes qui pètent toutes les 5 minutes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme les armes, elles se pètent toutes les 5 minutes, bah, tu changes tout le temps d'armes. Donc, t'en as rien à foutre des armes que tu récupères. Au final, il n'y a pas d'attachement à l'équipement que tu récupères. Et comme tes armes, elles pètent toutes les 5 minutes, en plus, ils ont fait en sorte que tu puisses récupérer les armes de tous les ennemis. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères plus de matos que ce que t'as dans ton inventaire. Parce que, autant l'inventaire, il est illimité en termes de place pour tout ce qui est ingrédients à la con, etc. Autant, il est limité pour les boucliers, les armes, et
les arcs.
Et les arcs, voilà.
Et aussi les recettes. Parce que tu peux faire de la cuisine dans le jeu, en mixant plusieurs ingrédients. Et le problème, c'est que, par exemple, si tu as les matières premières au niveau des fruits, des légumes, si tu as 50 fruits identiques, bah, ça va prendre une case, il va te mettre un fois 50.
Ouais.
Par contre, si tu as 10 plats préparés identiques, ça va te prendre 10 cases. Le nombre de cases pour les recettes est limité, ce qui est complètement aberrant. Et c'est pareil pour les armes.
Et pour moi, c'est d'autant plus problématique pour les armes, parce que encore les recettes, si tu veux, le jeu est d'une facilité telle qu'en fait, à moins que tu te prennes pour Top Chef et que tu n'arrêtes pas de faire de la cuisine, ça ne pose jamais vraiment de problème. Alors que les armes, en fait, en permanence, alors que c'est un jeu qui mise tout sur le fait d'observer la carte, de regarder ce qui se passe à l'écran, qui mise tout vraiment sur le contact visuel que tu as avec la map, quoi, ils introduisent cette mécanique où tu lootes plus d'armes que ce que tu peux en stocker dans ton inventaire, et où, en fait, tu passes ton temps à virer des armes dans ton inventaire parce que t'as pas assez de place, en fait. Et le truc encore plus vicieux, c'est que derrière, pour augmenter la taille de ton inventaire, il faut te taper tous les mini-jeux à la con des kogoro. C'est-à-dire que les seuls qui peuvent augmenter la taille de ton inventaire dans le jeu, c'est les kogoro. Et pour ça, il te faut des noix que tu récupères en faisant leur mini-jeu à la con.
Rassure-moi quand même, au bout d'un certain moment dans le jeu, on arrive à trouver des armes qui durent un certain nombre de temps quand même.
À part la Master Sword.
Alors c'est un spoil, ça.
Attention, dans Zelda, il y a la Master Sword.
et elle est cachée dans la forêt du Rune.
Ne spoil pas où est-ce qu'elle est cachée non plus.
Ouais, c'est pas comme si, c'est pas comme si elle était cachée ailleurs dans tous les dans tous les jeux Zelda. Hein.
Oh là là.
voilà. En gros, t'as trois types d'armes. T'as les armes de base que tu récupères sur les ennemis. t'as les armes des prodiges, elles durent un peu plus longtemps, mais un peu, hein, c'est pas extraordinaire non plus, et surtout, tu peux les réparer, celles-là, contrairement aux armes de base que tu ne peux pas réparer. Par contre, je peux te dire que vu le prix que ça coûte, parce que il faut choper certains ingrédients, tout ça, et je peux te dire que quand on te dit qu'il faut un diamant pour réparer une arme, t'as pas envie de le dépenser ton diamant parce que t'as envie de le garder plutôt pour tes armures, par exemple. Ben, t'as pas forcément envie d'utiliser le diamant, surtout que l'arme, elle va casser en très peu de temps, tu vois. La seule arme du jeu qui a une durabilité correcte, c'est la Master Sword. Et encore, la Master Sword, elle peut casser au bout d'un moment.
Ah bon ?
Enfin, c'est pas qu'elle casse. C'est que son pouvoir s'épuise au bout d'un moment, il faut attendre 9 minutes pour qu'elle se réactive. La Master Sword...
T'as besoin de rien faire.
Oui, mais t'as besoin de rien faire, mais c'est casse-couille quand même, tu vois. Enfin, je me dis, merde, non. Attends, c'est l'épée légendaire, c'est la Master Sword, et au bout d'un moment donné, elle a plus de pouvoir, tu te fous de ma gueule. Enfin, et non, mais surtout,
y a plus
en plus,
batterie, au-delà de ça,
non, mais au-delà de ça, ATH, moi, je pose une question, qu'est-ce que ça apporte au jeu que des armes cassent toutes les 5 minutes? Strictement rien. Et au contraire, ça nuit au jeu, parce que, du coup, il y a zéro attachement au loot. J'aurais préféré un système beaucoup plus proche des Souls, où on te dit, t'as les armes qui sont plus ou moins durables, où tu peux les réparer, et où, en plus, t'es des armes beaucoup plus différenciées, en fait. Parce que, au départ, moi, quand j'ai vu les premières vidéos du jeu, je me disais, ah oui, c'est intéressant, il y a différents movesets en fonction des armes. Sauf que, t'as des types d'armes, si tu veux, qui ont des movesets, genre les lances, elles ont tel type de movesets, les épées à une main, elles ont tel type de movesets, etc. Mais au sein de la même famille d'armes, par exemple les épées à une main, t'auras tout le temps le même moveset. Contrairement à Souls, où par exemple, quand tu chopes tel katana et tel katana, t'as pas forcément les mêmes attaques. Et ça, moi, j'aurais préféré, au lieu qu'il fasse 36 milliards de skins d'armes, qu'on ait beaucoup moins d'armes et qu'on ait des movesets différents, en fait, tu vois. Ou alors, les armes, t'en as quasiment pas dans le jeu, mais elles sont beaucoup plus durables et tu peux les crafter toi-même, en fait. Genre, tu peux récupérer des bouts d'armes et... crée toi-même tes armes, tu prends tel pommeau, tu rajoutes telle lame dessus, etc. Et on aurait très bien pu imaginer un système, par exemple, où tu peux récupérer différents matériaux sur les monstres qui vont permettre de crafter toi-même tes armes, et ces armes, elles seront durables, quoi. Et à la limite, on pourrait même mettre un système d'usure, où tu pourrais réparer tes armes avec de la poudre, tu sais, un peu comme dans les Souls, et où, par contre, quand tu casses une arme, elle est cassée pour de bon, parce que t'as pas fait gaffe, t'as fait le con, elle est cassée, c'est fini. Faut en recrafter une autre. Et ça aurait été beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ludique que ce système absolument merdique, en plus qui te gâche l'expérience, parce que toutes les 5 minutes, tu dois aller dans ton inventaire pour virer ta larme, pour en reprendre une autre, et ça coupe l'action, en fait. Je ne comprends pas ça, parce que tout le jeu a été orienté, a été drivé pour la fluidité de l'action, et tout d'un coup, t'as ce truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe, tu vois, et tu dis, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi.
Justement, tu parles des Souls, ça tombe bien, parce que je voulais te parler un petit peu du système de combat. Déjà, j'ai lu un peu partout sur la toile que le jeu était comparé à des Souls, et comme tu parlais justement des movesets des armes, dans les Souls, c'est un intérêt, parce que les combats sont exigeants, et t'es toujours un peu sur la défensive et tout ça. Là, je voulais savoir si, bah justement, dans ce Zelda Breath of the Wild, est-ce que ça aurait un intérêt à utiliser en termes de gameplay pur pour les combats, quoi.
Tel que le jeu est conçu actuellement, non. Et moi, je pense... Alors, je sais que j'avais dit, quand j'avais vu la dernière vidéo, que oui, ça me faisait totalement penser aux Souls. Mais en fait, non, ça n'a aucun rapport. Pourquoi ça n'a aucun rapport? Déjà, parce que, en fait... Alors oui, t'as un système d'esquive, tout ça, mais à aucun moment, la difficulté du jeu, même contre les... Parce que j'ai souvent lu que... Alors oui, c'est vrai que les boss, ils sont faciles, et c'est vrai qu'ils sont d'une extrême facilité. Franchement, Ganon, c'est une déception absolue. Et on disait aussi à côté, ouais, mais vous allez voir, les combats contre des Inmaz, c'est dur. Des fois, c'est super exigeant. Non. En fait, ce jeu, mis à part un ennemi dans le jeu, qui sont les Linels. Alors, ceux qui ont joué voient très bien de quoi je parle. Hein, c'est un espèce de centaure qui est un peu balèze. Voilà. Mis à part ces ennemis-là, je le dis comme je le pense, strictement aucun ennemi dans le jeu ne te pousse à exploiter les subtilités du système de combat. Tu peux bourriner comme un porc, du moment que tu joues pas comme un gros débile,
et
tu t'en sortiras toujours.
Il faut être bien stuffé aussi, quand même.
Ouais, mais le stuff, ça se récupère facilement, quoi. Enfin, encore s'il y avait une quelconque difficulté à récupérer du stuff, je serais d'accord, tu vois. Mais le stuff, il se récupère tout seul, quoi.
Mais après, parce que tu vas...
Non, mais je veux dire, il y a quand même des ennemis. Bon, au début du jeu, moi, je l'ai trouvé quand même difficile au début, les premières heures, parce que j'avais pas le système de jeu en main, et les combats, c'était pas ma priorité. Moi, ce que je voulais, c'était vagabonder dans la pampa, quoi. Mais au bout d'un moment, t'es quand même obligé de combattre. Donc, j'ai combattu, et c'est vrai qu'au début, les combats sont difficiles, parce que les ennemis peuvent te one-shotter. dès le début du
ouais,
jeu.
Ouais, sauf que quand toi en face, tu peux totalement abuser le système en jetant des bombes, en te plaçant dans un spot où ils peuvent pas te taper. Ou le truc, c'est que le jeu, même au début, t'as des pouvoirs tellement pétés que tu peux totalement abuser le jeu pour péter la gueule aux ennemis sans qu'ils aient le temps de rien faire, quoi. Surtout qu'en général, les lieux où tu peux combattre les ennemis, ils sont toujours conçus pour que t'aies un spot. Alors là, t'as un petit baril explosif, là, t'as ce truc. Alors, effectivement, si tu vas dans les hauts plateaux qui sont en bas à gauche de la carte dès le début du jeu, là, je pense que oui, tu dois en chier, tu vois, parce qu'en plus, tu dois gérer le froid, etc. Mais très sincèrement, moi, je peux dire que je joue à Nioh en ce moment, c'est autre chose, quoi.
Ouais, mais après... parce que vous...
Mais non, mais si tu veux, la différence... Parce que, soit dit en passant, DH, pour moi, Nioh est plus facile que Dark Souls. La différence entre Nioh et ce jeu-là, et je trouve pas Nioh particulièrement difficile, sauf sur les boss, c'est que Nioh, j'ai l'impression qu'il y a un jeu, quand je fais le débile, il me punit. Là, Zelda, franchement, même au début du jeu, si t'as un mob, tu sais que bon, ils peuvent te one-shotter, bah écoute, tu prends ton arc et tu le défonces, quoi.
Ouais, mais enfin après tu vois, enfin nous, on est quand même des joueurs un peu aguerris, entre guillemets, c'est-à-dire on a un peu l'habitude des jeux comme les Souls et tout ça, donc qui sont un peu exigeants. Mais je veux dire, pour le mec lambda qui voilà, il joue pas trop aux jeux vidéo, ce Zelda-là, il pourrait peut-être lui poser un peu de difficultés, comme
disait
Pixel.
Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais entendons-nous bien. Moi, je parle pour les joueurs qui sont un peu comme nous, quoi. Enfin, on est sur le podcast The Game Info, tu vois, on a quand même un peu de bouteille. Pour moi, zéro rapport avec Dark Souls. En tout cas, pour que ce soit clair, c'est pas un système qui te pousse à exploiter ses subtilités. Tu peux parfaitement bourriner, ça passe, quoi. Et c'est d'autant plus flagrant quand tu passes au boss, où là, c'est la grosse blague. C'est vraiment la plaisanterie du jeu absolue. Et c'est d'autant plus décevant que ce sont des boss, pour le coup, qui ressemblent pas du tout aux boss des anciens Zelda. C'est-à-dire que, à part peut-être Ganon et un des quatre gardiens, où à un moment donné, il y a une phase où tu dois un peu réfléchir sur ce que tu dois faire. Tu sais, les Zelda, en général, c'est des boss à gimmick. Là, non, quoi. Enfin, c'est des boss bourrins, ouais, quoi, qui sont pas très intéressants en termes de gameplay, quoi.
Dans les Zelda, les boss, en général, c'est à trouver une arme dans le temple, et hop, bah, comme par hasard, pour battre le boss, il faut que j'utilise cette arme-là, tu vois. Après, c'est vrai que c'est bien parce que ça utilise justement les mécaniques que t'as apprises tout au long du donjon. Donc, entre guillemets, c'est pour valider tes acquis, tu vois. Mais ça a jamais été non plus le gros point fort des Zelda, quoi, tu vois.
Mais disons que c'est toujours mieux que ce que t'as dans Breath of the Wild, où, je suis désolé, mais je trouve pas ça normal que j'arrive contre un boss, je joue comme un gros mongol, hein, je veux dire que je joue extrêmement mal, et je le first try, quoi. C'est pas normal. Et pourtant, quand je dis que je joue mal, c'est que je joue vraiment mal. Je fais n'importe quoi.
Les yeux bandés, les mains dans le dos.
Pour ma part, je trouve que la difficulté est quand même relevée. Je me suis fait one-shotter pas mal de fois. T'as des ennemis, ouais, ils font un coup, t'as 8 cœurs en moins, donc tout dépend du stuff que t'as au départ. J'ai trouvé la difficulté relevée, je l'ai pas trouvé d'une difficulté hallucinante, qu'on soit bien clair là-dessus, mais je l'ai trouvé ni d'une difficulté façon Dark Souls, ni d'une facilité débile.
En fait, tu dirais que ça serait un peu une difficulté qu'on avait dans les jeux vidéo à l'époque, quoi. C'est-à-dire avant que...
Ouais, c'est une difficulté un peu old school. Ça va t'empêcher quand même de foncer vraiment dans le tas. Mais moi,
après,
c'est comme ça que je joue.
Oui, mais après, enfin, moi, ce que je trouve intéressant là, c'est que justement, toi et Tyran avaient joué au même jeu et que bah vous avez pas du tout peut-être la même expérience de jeu et de ressenti. Peut-être aussi parce que vous avez pris une route différente, tu vois. Parce que vu que le jeu est totalement ouvert, peut-être que Tyran, justement, lui, il est parti, il a trouvé des équipements assez puissants, il a trouvé une route assez facile dès le début, du coup, c'est un peu plus tranquille pour lui, et toi, justement, t'es allé dans les endroits un peu chauds dès le départ, et...
Peut-être qu'on joue pas de la même façon.
Ouais, et après,
expliquer une chose, moi, je suis le joueur, tu me donnes, des possibilités, si je peux cheater le jeu, je vais le cheater. Et si le jeu est pas foutu de me mettre un challenge, c'est pas mon problème, ça veut dire que le jeu, il est mal foutu. Je veux dire, quand t'as un jeu où il suffit de balancer une bombe pour les mecs qui soient explosés à 10 mètres...
Ouais, moi, j'utilise jamais les bombes, c'est pour ça que c'était plus difficile.
Mais tu vois, enfin, c'est quand même un élément du gameplay qui est là, c'est un des premiers pouvoirs qu'on te donne. Moi, je suis désolé, je l'exploite. Si le système, à un moment donné, il m'oppose pas de résistance, bah, je vais lui rouler dessus.
Ah, mais moi aussi, hein, je suis généralement comme ça dans les jeux, j'essaie d'exploiter les faiblesses du jeu. Mais dans ce Zelda-là, j'étais tellement pris dans le jeu, en fait, que je... Tu vois, par exemple, les fées. Le jeu est tellement vaste que tu peux passer à côté. Je la découvre complètement par hasard. Je me suis dit, j'y reviens plus tard. Et j'ai complètement oublié son existence. Et c'est genre vers le plus de la moitié de mon run.
Ah, mais c'est pour ça que t'as galéré aussi, en fait.
Voilà. J'y retourne et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, elle est là-bas. Eh ouais, la fée me permet d'upgrader mes vêtements et ça m'avait été complètement sorti de l'esprit que son existence. Mais je savais pas qu'elle upgradait les vêtements. Et là, je me suis mis à upgrader mes vêtements et c'est vrai que le jeu est devenu bizarrement plus facile. Les mecs, ils me one-shotaient beaucoup moins souvent.
Ah ouais, non, mais si t'as fait tout le jeu à poil, ça, je comprends pour le coup que t'es galéré parce que...
enfin... Ah ouais, je l'ai fait un peu à l'ancienne, quoi.
Alors pour terminer, parce qu'on arrive sur la fin là, ce que je retiendrai, c'est quand même un jeu qui a de la magie, quoi. C'est-à-dire que des fois tu découvres des trucs comme ça, que ce soit des trucs qui sont cachés dans le jeu ou des subtilités de gameplay que tu découvres totalement par hasard et tu te dis putain mais c'est génial. À un moment donné dans le jeu, j'ai découvert par exemple que le fait de te trimballer avec une arme en feu dans un environnement où il fait froid, bizarrement ça augmentait la résistance au froid de Link. J'avais qu'une seule pièce de vêtement, tu vois, qui te réchauffait. Je me disais, c'est la galère, je suis pas si couvert, j'ai pas assez chaud. Et là, d'un seul coup, je m'équipe d'une arme en feu, et je vois Link qui a plus froid. Ce jeu, tu découvres en permanence des subtilités, et t'as plein de trucs comme ça qui sont imbriqués dans le jeu, qui font que, ben, c'est de la magie, quoi.
J'ai découvert un truc comme ça aussi. Le jeu prend en compte le fait que tu peux exploiter les décors contre les ennemis. Mettre le feu aux herbes.
Ouais.
Si les ennemis sont dans les herbes hautes, les ennemis vont prendre feu. Si t'as par exemple une source de feu pas loin et tu prends une flèche normale, tu vises vers le feu, ta flèche elle va prendre feu.
C'est génial.
Et donc t'as une flèche de feu.
Et t'as plein de petits sous-systèmes, tu vois, comme ça, qui sont imbriqués dans le jeu,
voilà,
qui fonctionnent parfaitement et qui donnent un univers qui respire, quoi.
Il respire aussi grâce aux animations, dont on a parlé tout à l'heure, mais t'as une myriade, un milliard d'animations différentes, environ. Mais c'est fou, ces animations-là, elles te rendent le jeu vraiment, comme tu dis, vivant. Par exemple, Link, quand tu veux ouvrir un coffre, il va donner un coup de pied dedans. Si t'es à poil, il va se faire mal au pied et il va se prendre le pied. Voilà. Par contre, dès que tu mets des bottes, il a plus mal au pied. Ou quand t'as froid, tu vois Link qui commence à se cailler les miches et il a les joues rouges.
Ouais.
Voilà, quand t'es dans le désert, il commence à suer. Donc t'as plein de petits trucs.
Et là, tu vois, on parle des petits trucs, mais il y a des gros trucs aussi dont on ne parlera pas pour le coup. Mais c'est un jeu où il y a un vrai sens de la découverte et de la surprise quand même. Est-ce que je peux conclure, Pixel, ou tu as quelque chose à ajouter ?
Ouais, sur ce qui, bah, t'en as parlé tout à l'heure. En fait, pour toi, ton bémol, c'était les chutes de framerate.
En termes techniques, hein.
Ouais, en termes techniques. Moi, j'ai des chutes de framerate aussi. En tout cas, pour la version Wii U. Pour la version Switch, je ne sais pas. Faudrait demander à Dwayne.
Bah, apparemment, il y a des soucis de framerate aussi sur la Switch, mais bon, c'est un peu moins important en fait quand tu joues en mode nomade que lorsque tu joues sur la télé, mais t'as quand même des ralentissements. Après, il y a une différence aussi entre la version Switch et la version Wii U. Quand même, la version Switch est un peu plus belle quand tu vois les deux à côté, et tu vois qu'il y a une différence, c'est clair et net.
Ouais, et donc t'as des chutes de framerate. Moi, bon, il faut savoir que sur Wii U, dès que tu rentres dans un village, tu passes de 30 FPS à peu près 15 FPS.
Surtout le village Cocorico.
Et le château de Hyrule, il est pas mal aussi. Hein. T'as des chutes de framerate bien violentes.
Je sais pas, moi je l'ai torché en 2 minutes. Donc.
Moi j'ai passé quelques heures et donc je peux te dire que c'est vraiment violent aussi.
D'accord.
Par contre, j'ai eu pas mal de freeze frame pendant les combats. L'image elle freeze pendant 1 seconde, voire même un peu plus d'une seconde et... À plusieurs reprises, j'ai eu peur que le jeu plante.
Ah ouais, non,
le jeu ne plante pas.
Là, par contre, là, c'est bizarre, ça, c'est chaud, quoi.
Le jeu a freeze framé, enfin, pas beaucoup de fois, peut-être 4 fois, 5 fois, mais enfin, je m'y attendais pas. J'ai vraiment eu peur.
Après, ça peut être aussi en fonction de la qualité de la machine, quoi. C'est-à-dire si la machine est plus ou moins récente, enfin, comme si c'est une Wii U de base que t'as acheté genre le jour J, ou bien si c'est une Wii U de fin de modèle de production, tu vois, c'est des fois ça change et ça se trouve que c'est des problèmes entre les processeurs de la machine même, tu vois.
Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, je sais pas, mais il y a aussi un autre truc qui m'a fait chier, je me suis dit, t'as pas d'option pour régler, par exemple, les pistes sonores. Le son, je le trouve extrêmement faible, en tout cas, personnellement, sur mon système de son, qui est quand même un système de son 5 points home cinéma, je suis obligé d'augmenter le son, quoi, par rapport aux autres jeux.
C'est bizarre, ça m'a pas... C'est bizarre.
C'est extrêmement bizarre. Et bon, comme sur Switch, il y a le fameux voile blanc, en fait. Que ce soit sur la tablette ou sur la télé, il est là. Bon, on peut le baisser en réglant le contraste de la télé ou du moniteur. Et j'ai aussi un autre problème, c'est que j'ai eu pas mal pendant les combats des problèmes de caméra. Des caméras un peu bordéliques à la Dark Souls. qui se coince un peu dans le décor et je vois plus rien.
C'est vrai que j'ai pas relevé, mais ça c'est la force de l'habitude. Il a raison.
Voilà, et un truc que je trouve extrêmement aberrant, c'est que tu changes tout le temps d'arme, donc tu as des raccourcis sur le pad, heureusement.
Mmh. Heureusement.
Alors, tu as des raccourcis pour les armes à une main ou deux mains, ou les boucliers, mais t'as pas de raccourci pour les arcs.
Mais si, t'as un raccourci pour les arcs. Quand tu sors ton arc, en fait, le truc qui sert pour les épées sert pour les arcs.
Non, mais c'est, enfin, ce que je veux dire pour les arcs, c'est que une fois que les arcs se cassent, en fait, tu peux pas, tu es obligé de revenir dans le menu pour en choisir un.
Non, parce qu'en fait, moi, je croyais que tu disais, si t'as un arc d'équipé, tu peux pas équiper un autre arc.
Non, c'est fait. Pas ça que je voulais parler. Enfin, ouais, je me suis mal exprimé.
On s'est pas entendu. Donc, effectivement, en fait, quand tu casses un arc, tu es obligé d'aller dans le menu pour t'équiper d'un autre arc. Contrairement, par exemple, aux épées.
Et aux boucliers.
Et aux boucliers, où là, tu peux switcher à la volée d'armes, quoi.
Dès que ça casse, tu switches, mais sauf pour les arcs.
Ce qui est d'autant plus débile que, enfin, le système, il gère le fait de switcher d'arc quand t'as déjà un arc d'équipé. Ce qui suffisait de faire, c'est garder la même combinaison de touches. Ça aurait très bien pu être géré comme ça, tu vois. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, en fait.
Et pourquoi ils ont pas utilisé la mablette sur la Wii U?
Ah oui, non, mais ça...
Bah, moi, je trouve ça scandaleux. T'as une mablette et c'est un écran noir qui est affiché dessus pendant que tu joues sur ta télé, quoi.
Ouais. Bah, au moins, pour switcher, ça va vite, hein. T'appuies sur la mablette n'importe où et... Tu joues sans la mablette.
Oui, mais voilà. Ce qui est nul, c'est que bah c'est un jeu où tu ramasses plein d'armes, d'équipements et tout ça, et que au final tu peux pas faire ça de voler quoi, sans mettre le jeu en pause. Et ça aurait été pratique justement de avec la tablette. Pour une fois que la tablette aurait servi à quelque chose.
Bah, c'était prévu à la base.
Non, mais le plus drôle, c'est ne serait-ce que pour les soins, au lieu de te faire tout le temps, ça aussi c'est une aberration je trouve en termes de game design, le fait que tu te puisses soigner quand tu veux, que ça mette le jeu en pause. Pour moi, ça rend le jeu d'autant plus facile. Ah, oh, je suis quasiment mort. Bah écoute, je vais me soigner, c'est pas grave. J'ai 36 milliards de plats dans mon sac à dos, donc c'est pas un problème. Tu vois.
Attends, Ganon, je bouffe un petit steak haché là.
Tu vois, c'est aussi ce genre de choix de game design qui me fait dire qu'ils ont pas joué à Dark Souls, parce que ils auraient joué à Dark Souls, je pense que ils auraient dit non, c'est une idée à quoi en fait le truc. Et là, ne serait-ce que tu vois pouvoir s'éviter la corvée d'aller dans le menu. Et d'avoir le menu sous tes yeux, quoi, sur la mablette.
Les menus déroulants qui sont très chiants.
C'est ça. La seule bonne idée du menu, pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir changer à la volée à partir du D-pad les armes. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été super minible. Bon, on va conclure, messieurs.
Ouais, je pense qu'on a fait pas mal de temps sur Zelda, là.
Ouais.
Un des tests les plus longs, je pense, même.
Pour moi, ce Zelda, en fait, c'est un peu le World of Warcraft des open world. C'est-à-dire que c'est un jeu... Il n'invent pas grand-chose. Il a même pompé énormément de choses, à droite et à gauche. Mais le truc, c'est que il fait tellement de trucs mieux que les autres, et surtout, il a un tel niveau de finition qu'il en ressort du lot et qu'il devient une référence, quoi, en fait. C'est exactement la même chose que World of Warcraft, c'est-à-dire World of Warcraft, il est arrivé. Pourquoi il s'est imposé? Bah, c'est pas par son extraordinaire originalité ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'il a fait un truc, et il l'a fait extrêmement bien, avec un niveau de polish qu'on avait rarement vu jusqu'avant. Et je tenais à mettre en garde les studios qui voudraient se lancer comme ça dans un open world. Attention, parce qu'il y aura un matériel de référence. Et on vous jugera à l'aune de ce matériel-là. Donc, plutôt que de faire des bêtes copies, je vous suggérerais très franchement de trouver des nouvelles idées pour vos open world, parce que si c'est pour faire un open world classique, bah écoutez, Zelda, il l'a déjà fait, et pour le coup, pour le détrôner, ça va être très, très, très dur. Parce que, certes, on s'est beaucoup plaint des défauts qu'il y a là, mais en même temps, ce jeu a un niveau tel de finition comme j'en ai rarement vu, et pour moi, en termes d'open world, c'est une référence absolue. Juste une dernière précision, j'irai pas le comparer avec des jeux comme The Witcher 3, par exemple, parce que pour moi, The Witcher 3, en termes d'open world, il est un peu à l'opposé du spectre. C'est-à-dire que The Witcher 3, c'est un jeu avant tout à histoire, avec des dialogues, etc. Ce qui n'est absolument pas la force de ce Zelda. Pour moi, ce Zelda serait plus arrangé dans la catégorie des jeux comme Skyrim. Et pour le coup, Bethesda, faites gaffe à votre cul, parce qu'il y a un jeu qui est sorti là, qui fait aussi bien que vous en termes de design des maps, et qui en plus a un gameplay d'une manière générale qui est bien plus intéressant, et je trouve ça triste qu'il ait fallu que j'attende d'aller chez Nintendo pour retrouver des sensations de plaisir d'exploration que j'avais ressenties avec Morrowind, et que je ne ressens plus depuis que vous avez décidé de coller un GPS dans mon jeu et que vous avez décidé de prendre vos joueurs pour des débiles. Voilà.
Donc ça va être à mon tour de donner mon avis final sur le jeu. Je vais me répéter un peu comme je dis tout à l'heure, mais ça m'a réconcilié un peu avec la saga Zelda. Il le fallait.
Juste un petit peu ?
Non, mais juste un petit peu beaucoup, on va dire ça comme ça. Mais ça faisait des années que j'avais pas joué à un jeu Zelda, parce que les jeux Zelda ne m'intéressaient plus du tout, quoi. Et celui-là, bon, bah c'est open world, c'est du loot, c'est du combat, c'est de l'exploration, t'as des puzzles et tout. Puis c'était le dernier jeu de la Wii U en plus, donc je me suis dit, allez, il faut que ma Wii U, qui est poussiéreuse depuis des mois, finisse en beauté, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ce Zelda Breath of the Wild, en tout cas sur Wii U, vaut le coup d'être acheté, vaut le coup d'être joué, même full price, j'ai envie de dire. 60€, certes, c'est une somme de nos jours, mais voilà, le tyran, il a passé une centaine d'heures de jeu dessus. Donc pour 60€, je pense que c'est un bon investissement.
C'est rentable.
C'est rentable, c'est plus que rentable même. Si vous n'avez pas de Wii U, c'est le jeu qui vous fera acheter une Wii U. Surtout que les Wii U, elles sont pas chères en ce moment, avec la sortie de la Switch. Si vous avez une Wii U comme moi depuis quelque temps, c'est un bon moyen de lui donner à manger.
De la laisser mourir,
contre,
plutôt.
Genre... Non, de lui donner
à
manger.
Tu vas mourir avec un joli cadeau de Dieu.
C'est un bon moyen de l'achever avec les chutes de Framette au village Cocorico.
Voilà. Ou au château Hyrule.
Voilà.
Et par contre... Voilà, si bon, Dwayne n'est pas là malheureusement, mais moi je pense personnellement que ce jeu-là ne vaut pas vraiment le coup d'acheter une Switch.
Non mais aucun jeu ne vaut que tu dépenses 300 balles pour t'acheter une console, soyons sérieux.
Ah mais bon, si, en même temps, si t'as envie d'acheter une Switch, c'est le seul jeu que t'as à faire.
Ouais, quoi. C'est le seul. Mais bon, c'est un jeu à posséder. Voilà, c'est un jeu à posséder. Si vous aimez les mondes ouverts, ça va vous plaire.
Voilà.
C'est un jeu qui va rester dans les mémoires, j'ai envie de dire, dans la saga des Zelda. Je veux pas dire qu'il y aura un avant, un après Zelda Breath of the Wild, parce que ce serait un peu mentir, mais il renouvelle la saga.
C'est un jeu qui n'invente rien, mais qui fait quelque chose de différent par rapport à la série, qui a osé faire quelque chose dans cette série-là. Voilà. Ça ne rend pas pour autant les anciens épisodes invalides, parce que pour moi, ça n'a rien à voir, en termes de structure et de plaisir de jeu. Mais c'est un jeu, vraiment, qui, s'il y a un avant, un après, ça sera un avant et un après en termes de qualitatif sur les open world, quoi. Tous les open world qui vont sortir à partir de maintenant, on va les juger à l'aune de ce jeu-là.
Voilà, c'est un bon jeu, malgré tous ses défauts. Voilà, parce qu'on n'a pas menti, hein. Il y a vraiment une myriade de défauts, mais c'est un jeu qui vaut quand même le coup d'être joué.
Voilà. Bon, allez, on s'arrête là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Ciao.
Ciao.